Bonjour à tous. Au nom du CNV, je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue. Christiane Ferrat-Schulz, notre présidente qui devait intervenir et introduire cette université d'été, est hélas dans l'avion, donc elle ne peut pas être parmi nous. Donc cette université d'été est ouverte à l'initiative du syndicat des avocats de France, du syndicat de la magistrature et du syndicat national des journalistes, sous le haut parrainage du CNB. Je donne tout de suite la parole à Jean-Jacques Gandini, qui est à l'origine, à l'initiative de l'organisation de cette journée.
Merci Jérôme. Donc c'est effectivement la première université d'été que lance le syndicat des avocats de France, le syndicat de magistrature et le syndicat national des journalistes. D'où est venue cette idée d'organiser cette rencontre sur le thème « Secret des sources, secret des affaires, quels enjeux, quelle déontologie », réunissant donc journalistes, avocats et magistrats. Le 25 janvier dernier, s'est tenue à Montpellier, dont je suis originaire, la sixième journée de l'avocat menacé, déclinaison locale de la journée de l'avocat menacé, créée en janvier 2012 par l'association Avocats Européens Démocrates, dont le SAF est membre fondateur, en hommage à trois avocats espagnols communistes assassinés à Madrid le 24 janvier 1977 dans l'exercice de leurs fonctions par un commando d'extrême droite. La neuvième édition, en janvier 2019, dans une dizaine de villes d'Europe, a connu à Paris un certain succès. Cette manifestation est désormais organisée en plus de l'AED, par l'Observatoire international des avocats en danger, la Fondation de la journée de l'avocat en danger, l'IDHAE, le CNB, le Barreau de Paris, FNUJA, AFIJA et Avocats sans frontières. A noter qu'en 2018, plus de 100 avocats ont été tués à travers le monde, plus de 80 journalistes également, et je n'ai pas la même statistique pour les magistrats, mais au moins 10 d'entre eux ont été tués pendant 2 ans aux Philippines. Je reviens sur la journée du 25 janvier à Montpellier, dont le thème était « Les atteintes à la profession d'avocat liées à la réglementation européenne », avec parmi les intervenants Michel Deléan, journaliste à Mediapart, en lien avec la directive européenne sur le secret des affaires, constituant pour lui un danger pour le secret des sources. À la suite du débat qui s'en est suivi, et auquel s'est joint Gilles Senati, secrétaire national du syndicat de la magistrature, nous nous sommes dit tous les trois que ce serait bien de confronter nos pratiques et nos réflexions, avocats, magistrats, journalistes, avec la déontologie en toile de fond, au regard de la plasticité de l'arme du droit, et ce par le biais de l'Université d'été, dont la première édition porterait justement sur ce thème « Secret des sources, secret des affaires ». Et ce, à partir de la directive européenne du 8 juin 2016 sur, je cite, « la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées, secrets d'affaires, contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicite », laquelle a été transposée en droit français par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des affaires, laquelle vient d'être validée par le Conseil constitutionnel le 26 juillet tout en faisant valoir, guillemets, une exception à la protection du secret des affaires bénéficiant aux personnes physiques exerçant le droit d'alerte, mais aussi à toute personne révélant, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible. Sachant que le 16 avril est intervenue une directive européenne relative aux personnes dénonçant les infractions au droit de l'Union, texte offrant à tous les lanceurs d'alerte une protection commune, et ce, ironie du sort, quelques jours après l'arrestation de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Et que vient de s'immiscer dans le débat le rapport parlementaire Gauvin du 26 juin 2019, qui vise, guillemets, à rétablir la souveraineté de la France et de l'Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures apportées extra-communautaires. Je citerai simplement certaines affaires médiatisées récentes. Le procès intenté par Conforama, magazine de comique Challenge, dans lequel la Cour d'appel de Paris vient d'infirmer la décision de condamnation prise initialement par le tribunal de commerce de Paris, la convocation par la DGSI de 9 professionnels des médias pour atteinte au secret défense, à savoir la divulgation de l'identité d'un membre des forces spéciales dans le cadre d'une enquête journalistique, notamment d'Ariane Chemin au Monde dans l'affaire Benalla, et toujours le Monde à propos des prothèses médicales liées aux implant files et l'actuel recours devant le tribunal administratif de Paris suite à la fin de non-recevoir de la CADA de 36 organisations, dont le SAF et les syndicats de journalistes, et que ne manquera pas d'évoquer, je pense, Jérôme Cassanti, qui est à l'origine de cette procédure. Enfin, avant de donner la parole aux différents intervenants, tous très pointus sur ces questions, je vous livre ces deux définitions basiques pour introduire le débat sur le secret des sources et le secret des affaires. Pour le premier, la protection des sources d'information des journalistes, appelée aussi secret professionnel, est la base de la déontologie du journalisme et de la liberté de la presse, consacrée par l'article 10 de la Déclaration de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Et elle constitue, au terme de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une condition essentielle au libre exercice du journalisme et au respect du droit public d'être informé des questions d'intérêt général. Et pour le secret des affaires, est protégée à ce titre toute information ayant une valeur commerciale, ayant un caractère secret, revêtant une valeur effective ou potentielle et faisant l'objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère non public. Ceci étant, on arrive maintenant au vif du sujet. La journée va se dérouler ainsi. Tout d'abord, Antoine Mercier va intervenir. Arnaud Mercier, il y a plusieurs Antoine, c'est vrai. Arnaud Mercier sur les cadres juridiques et la problématique induite. Il est professeur des sciences de la communication et de l'information à Paris 2. Ensuite interviendra Antoine Deltour, le protagoniste des LuxLeaks, sur la reconnaissance du statut des lanceurs d'alerte. Il y aura ensuite un débat avec la salle et une pause café également. Ensuite, vers 11h à peu près, il y aura la table ronde, regard croisé avec Jérôme Cassanti, qui est membre de la Commission des droits de l'homme et des libertés du CNB comme modérateur, avec 5 intervenants, 2 avocats, Antoine Comte, Camille Aïri, un magistrat, Vincent Chamoyau, secrétaire général du syndicat de la magistrature, une journaliste, Dominique Pradalier, secrétaire général du syndicat national des journalistes, et enfin une directrice juridique qui est également membre présidente du Cercle Montesquieu, Laure Lavorel. Débat également prévu important avec la salle. Et enfin, vers 13h15, avant de terminer, il y aura donc une conclusion, une synthèse qui sera proposée par Gilles Senati, magistrat et ancien secrétaire national du syndicat de magistrature. Je vous remercie et sans tarder, je passe la parole à Arnaud Mercier. Merci.
Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas juriste, je suis politiste. Je suis spécialiste des questions de communication politique, de relations entre les médias et le politique. Et donc, je voudrais, ce qu'on m'a demandé, faire un cadrage qui n'est pas un cadrage évidemment technique et juridique, mais qui est plutôt une remise en perspective du droit en termes de technique dans un cadre plus général, de philosophie politique, et y compris dans une dimension de sociologie pratique. Alors, tous les juristes et les spécialistes de la criminalité, mais même le grand public, connaissent la lutte ancestrale entre le glaive et le bouclier, cet effort continu de chaque camp pour améliorer son armement ou son système de défense. Mais je crois qu'il y a aussi un autre cas, c'est celui que nous abordons aujourd'hui, qui correspond à une lutte ancestrale. Je dirais c'est celle de la lumière contre les volets ou quelque chose comme ça, ou en tout cas toutes les formes d'opacifiants de toute nature qui visent à éviter qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des mises au jour. Et le débat a longtemps été centré prioritairement sur les relations, sur ce point-là, entre les médias et le pouvoir politique. Mais il y a aussi d'autres pouvoirs qui sont concernés, évidemment, le pouvoir économique et industriel, puisque c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Alors au cœur de ce combat, évidemment, figure une notion qui n'est pas dans le titre, mais qui est évidemment complètement conjointe à tout ça, c'est la notion de transparence. Transparence qui est souvent posée comme un idéal enviable et ou atteignable. Hein. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. L'application d'un principe de transparence et la reconnaissance parfois du bien fondé du secret témoignent que ces deux notions sont unies par une relation dialectique complexe et complexité qui ne peut, à mon sens, que se refléter dans le droit, hein, voire contradiction qui se reflète dans le droit, au risque de générer des contradictions entre les textes ou entre les jurisprudences. Alors, pour essayer de cadrer un tout petit peu cela, je vous propose de présenter ça en quatre temps. D'abord, redire rapidement, parce que ce n'est pas le cœur du sujet, mais c'est le sous-texte d'une certaine façon, quels sont les enjeux de l'idéal de transparence, hein, de quels enjeux l'idéal de transparence est-il porteur? Dans un deuxième temps, quelles sont les limites éthiques et pratiques qui jalonnent l'application de cet idéal de transparence et donc qui fait qu'on peut reconnaître légitimement la question du secret? Comment, du coup, cette tension, ces contradictions éventuelles entre transparence et reconnaissance d'un secret légitime, comment ces contradictions dans nos sociétés débouchent également sur des tensions juridiques? Et du coup, dernier point, quelle ligne de conduite pour trancher, pour réfléchir à ces équilibres entre transparence et secret? Alors d'abord, de quel enjeu l'idéal de transparence est-il porteur? Eh bien, évidemment, du point de vue de la transparence politique, c'est très associé à un idéal démocratique. La transparence, elle est constitutive d'un espace public démocratique qui repose sur des débats ouverts, raisonnés, avec l'idée que, évidemment, seule une information générale et partagée est gage d'apparition d'un sentiment de confiance chez les citoyens et leur permet d'exercer une citoyenneté éclairée, notamment pour le vote. Les journalistes sont donc, de ce point de vue, une pierre angulaire du système démocratique, puisqu'ils se sont emparés depuis très longtemps d'une prétention à la publicité, au sens de rendre public. La Révolution française a fait naître, par exemple, le journalisme parlementaire, au sens de commencer par faire des comptes rendus des débats, de façon à pouvoir, le plus fidèle possible, à ce que tous les gens qui ne pouvaient pas assister au débat sachent ce que leurs représentants disaient. Et donc, cette prétention à la publicité fait que les journalistes revendiquent depuis longtemps qu'ils puissent mettre sous les projecteurs des points que certains voudraient laisser opaques ou secrets. La transparence, elle se veut double de ce point de vue, hein, dans l'idéal journalistique, à la fois la mise à nu des intentions de tous les dirigeants. Qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement? Qu'est-ce qu'ils éventuellement ne disent pas, mais qui serait derrière? Et la transparence, elle est aussi du point de vue du travail des journalistes, évidemment, puisque c'est un travail qui doit reposer sur des principes d'objectivité, de neutralité. Le récit journalistique aspire à être le reflet de la réalité. Donc il y a une transparence également dans les procédures de traitement de l'information. La transparence économique est également un enjeu très important et c'est même une des pierres angulaires du système économique libéral, notamment dans le cadre du modèle dit de la concurrence pure et parfaite. Parmi les vertus exigées dans ce modèle, un marché doit être transparent. Transparent, c'est-à-dire que toutes les caractéristiques sont connues des agents économiques, la qualité des produits, les quantités offertes, le prix demandé aux différents acheteurs, etc. Cela suppose donc que toutes ces informations sont disponibles, qu'elles circulent rapidement et sans coût. Alors, le fait est que par rapport à cette idéalisation du principe de transparence, il me semble que la transparence est peut-être qualifiée d'utopie. Au sens que c'est un but qui est souvent donné à atteindre, mais qui est en fait inatteignable réellement, tant pour des raisons éthiques que des raisons pratiques. Donc, deuxième temps, quelles limites éthiques et pratiques jalonnent l'application de ce principe de transparence? D'abord, il y a des limites éthiques. La limite éthique, c'est que une société de totale transparence est en fait un enfer.
c'est un enfer. D'ailleurs, la théorie démocratique reconnaît comme l'un de ses fondements également une séparation, par exemple, entre la sphère privée et la sphère publique. Et l'exigence de transparence s'applique à la sphère publique, mais on a le droit de protéger son intimité. C'est le fameux secret d'alcôve ou son jardin secret. Hein. Le jardin secret, c'est justement le secret le plus légitime, le plus personnel, celui qu'on a le droit de protéger du regard et même du jugement d'autrui. Par ailleurs, le sociologue allemand George Simmel, au début du XXe siècle, a théorisé, dans son livre « Secret et société secrète », a théorisé l'importance du secret dans la préservation du lien social. Le secret a une fonction sociologique essentielle, selon lui, parce que le secret permet à chacun, que chacun peut préserver sur certaines de ses activités, il parle à la fois individuellement mais aussi collectivement, permet d'échapper au contrôle des autres et, j'allais dire, à l'excès de contrôle des autres. C'est donc un moyen d'extension de la vie personnelle, un élément très fort, par exemple, d'individualisation de chacun ou de défense de l'organisation pour certains groupes. Et donc, Simmel fait l'hypothèse qu'il existe en fait un quantum fixe, dit-il, de secrets dans une société. Chaque société, il y a toujours une part de secret qui est plus ou moins tolérée, etc. En revanche, nous dit-il, si on travaille sur l'historicité du concept, eh bien, ce qu'il constate, selon lui, c'est que les domaines qui font l'objet d'une préservation légitime du secret évoluent au cours de l'histoire. Ce qui peut être ce qui a été secret un temps est vécu comme devant être public. Alors typiquement, les délibérations, par exemple, sous l'Ancien Régime, il n'y a aucun compte-rendu des débats au sein des assemblées, etc., alors qu'on considère qu'à partir du moment où il y a Assemblée nationale avec des élus, eh bien, on doit avoir un compte-rendu des débats, et ça a donné lieu progressivement à l'édiction, par exemple, du journal officiel débat, hein, où justement, on peut non seulement, c'est pas seulement les textes de loi auxquels on a accès, mais c'est carrément à ce que l'on dit, tous les députés, puis c'est la télévision, les questions au Parlement, etc. Donc il y a des domaines qui étaient secrets qui peuvent être vécus comme devant devenir publics et inversement, des éléments qui étaient légitimement considérés comme de l'ordre du public et ne devant pas relever du secret qui tombent progressivement dans l'acceptation sociale que c'est un secret à préserver. Et on voit bien comment, par exemple, cette ligne a traversé une institution extrêmement présente dans la société française pendant très longtemps, même encore aujourd'hui, mais même avec moins d'influence, l'Église catholique. L'Église catholique, qui se sentait, par exemple, parfaitement légitime à intervenir pendant des siècles sur la sexualité de ses ouailles, considérant que, puisque c'était la famille, etc., ça relevait d'un domaine public et qu'elle avait donc des consignes à donner, etc. Et on a vu comment, précisément, y compris chez ses ouailles, progressivement, y montait la revendication que ça faisait partie du domaine privé, qu'on n'avait pas à rendre de compte là-dessus, etc., et qu'on pouvait reconfigurer la frontière entre ce qui était de l'ordre du public et du privé, et donc entre l'ordre du relevant d'une publicité ou devant rester dans l'ordre du secret. Et donc je crois qu'un des enjeux de notre réflexion collective aujourd'hui, c'est justement de savoir ce qui est jugé comme un secret admissible, j'allais dire éthiquement, et ce qui relève d'une exigence de transparence. Il me semble que c'est notamment là qu'il y a une tension dans le cadre de notre débat d'aujourd'hui. Alors, les limites pratiques, les limites ne sont pas seulement éthiques, elles sont aussi pratiques, hein, que ce soit en matière d'information ou en matière d'information journalistique ou en matière économique. Les journalistes ne sont pas les derniers à avoir recours à des pratiques secrètes, à des dissimulations, y compris pour exercer leur métier et leur mission. C'est le cas, par exemple, de l'acceptation du off the record dans la relation entre des journalistes et du personnel politique. Les personnalités, vous connaissez tout ça, les personnalités politiques disent « bon, ok, je peux vous dire des choses, mais c'est off ». Donc les journalistes vont le savoir, mais ils n'ont pas le droit après de l'utiliser directement, ils ne peuvent pas citer, ils ne peuvent pas sourcer. Alors après, le off the record, ça marche aussi avec les magistrats et les avocats. Hein. Dans l'entourage de machin, ils se murmurent au palais, hein. Voilà, donc on peut pas sourcer, n'est-ce pas ? Je signale que le sujet est débattu. Certains journalistes disent qu'on ne devrait pas accepter le off the record, hein, alors que c'est quand même un système qui huile un petit peu la relation avec certaines sources et qui leur permet quand même d'être informés tout en ne pouvant pas l'utiliser conformément à tout ce qu'ils disent. Autre cas problématique, c'est l'obtention d'informations en dissimulant son identité. Les caméras cachées, etc. Le texte originel de 1918 de la charte déontologique des journalistes édictée par le SNJ était extrêmement ferme sur ce point. Il s'interdit d'invoquer un titre ou une qualité imaginaire, d'user de moyens déloyaux pour obtenir une information ou surprendre la bonne foi de quiconque. Donc en 1918, c'est clair, on n'a pas le droit d'obtenir une information si on ne se prévaut pas du titre de journaliste. Cette charte, elle a été révisée plusieurs fois dans l'histoire, la dernière fois en mars 2011, et elle trahit cette fois-ci qu'il y a bien une tension entre ce principe fondateur auquel les journalistes restent attachés, mais ce qu'on pourrait appeler, si on était canadien, des accommodements raisonnables, n'est-ce pas, à prévoir pour obtenir des informations. Je cite la nouvelle mouture de ce point de la charte. Il proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une information, point. Dans le cas où sa sécurité, celle de ses sources ou la gravité des faits l'oblige à taire sa qualité de journaliste, donc on reconnaît des tas de circonstances dans lesquelles finalement on est obligé d'agir un peu secrètement, il prévient sa hiérarchie et en donne dès que possible explication au public. Dès 1918, il y a aussi une autre revendication très ferme et qui, elle, n'a pas bougé depuis, mais qui est aussi la reconnaissance que les héros de la transparence sont obligés d'admettre que le secret est parfois constitutif du lien social et professionnel. Ils gardent le secret professionnel. Hein, c'est écrit en toutes lettres. Car le secret est jugé, évidemment, un élément fondamental de la relation de confiance entre le professionnel et ceux avec qui il interagit, exactement comme l'avocat avec son client. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc, le secret des sources peut être un indispensable moyen d'accomplir sa mission de transparence. Il faut peut-être parfois opacifier pour mieux mettre en lumière, ce qui prouve bien qu'il y a bien des contradictions possibles. En matière économique, il y a une littérature théorique abondante, même primée par ce qu'on appelle abusivement le prix Nobel d'économie, parce que ce n'est pas exactement le prix Nobel, mais enfin c'est équivalent, a démontré que l'idéal de transparence connaît bien des limites. Sur les marchés réels, l'information est souvent imparfaite. Il existe bien des situations d'asymétrie d'information. Et il y a l'article célèbre de George Akerlof, qui lui a valu d'ailleurs le prix dit Nobel, de The Market for Lemons, Lemons étant le nom argotique des voitures d'occasion, des vieux tacos, quoi, ce serait l'équivalent, qui montre que sur le marché des véhicules d'occasion, il est malheureusement très fréquent que des propriétaires de véhicules accidentés vendent avec insincérité leurs véhicules et donc vendent en fait des vices cachés. La qualité est une information complexe, l'obtenir est un processus qui peut être coûteux en argent, en temps, donc tout ne va pas de soi. L'information, elle a également une valeur en soi, et donc il y a des individus ou des sociétés qui sont disposés à payer pour l'obtenir. Et donc il se crée un marché de l'information pour récolter, redistribuer, etc. Et donc il y a une inégalité d'accès à l'information économique. Pensez à toutes les lettres particulières, pensez à des études qui coûtent des milliers d'euros, etc. Donc, on est très loin de l'idéal d'un marché pur et parfait dans lequel il y aurait une transparence absolue de tout ça. L'information est imparfaitement distribuée, certains agents étant naturellement ou de manière transitoire mieux informés que d'autres et pouvant en tirer d'ailleurs des bénéfices, c'est les fameux délits d'initiés, bien sûr. Donc, et par ailleurs, Martine Béart-Touché, qui est donc professeure à Paris 5, dans un cycle de conférences qui a été organisé en 2007 par la Cour de cassation sur la question de la transparence et de la concurrence, soulignait qu'il y avait un paradoxe de la transparence confrontée au droit de la concurrence. C'est qu'elle est à la fois le vice et la vertu, nous dit-elle. D'un côté, la théorie économique nous enseigne que l'une des conditions d'optimalité des marchés dans un cadre de concurrence parfaite résiderait précisément dans l'information parfaite des agents économiques. La transparence aurait donc des vertus d'efficience économique. Mais d'un autre côté, dit-elle, la transparence est un obstacle au bon fonctionnement du marché quand elle diminue du point de vue des opérateurs. L'incertitude inhérente au libre jeu de l'offre et de la demande, avec le risque qu'elle incite finalement les opérateurs à coordonner leur comportement. C'est tous les problèmes de coordination parce qu'on s'échange des informations entre opérateurs et on permet, par exemple, de fixer des prix, etc., ou de se répartir, évidemment, une zone d'achalandage. Enfin, tout ça, vous connaissez tout ça. Enfin, des agents économiques peuvent détourner et pervertir l'information à leur avantage. Ce sont tous les processus de désinformation, de manipulation de l'information. On le voit aujourd'hui avec la version modernisée des rumeurs, c'est les fake news, y compris pour faire plonger les cours des marchés boursiers, etc., etc. Alors, comment toutes ces contradictions entre ces deux principes, ces tensions, se traduisent, troisième point, donc, dans notre société, et comment cela débouche sur des tensions juridiques ? Depuis la première loi de moralisation de la vie politique par Michel Rocard en 1989, pour essayer donc d'endiguer la lame de fond de la défiance à l'encontre des partis politiques et des gouvernants qui sont soupçonnés de s'enrichir illégalement, de financer de façon occulte leur campagne électorale, etc., le personnel politique français a mis en avant un idéal de régulation juridique par la transparence. Et cette idée de transparence est apparue de plus en plus comme une réponse à une montée plus générale encore, de défiance à l'encontre de tous ceux qui sont réputés avoir du pouvoir, avoir de l'influence, donc aussi les pouvoirs économiques. Et donc ce mouvement me paraît, inarrêtable, en tout cas pour les années et les décennies sans doute à venir, parce que l'utopie Internet a ajouté, une couche d'idéalisation de la transparence, d'idéalisation de l'accès démocratisé à l'information. Et d'ailleurs, des politiciens vendent aux citoyens l'idéal participatif, la possibilité de voir à qui on va donner accès directement, l'open data, etc. Et donc il y a tout ce mouvement-là qui est à la fois une revendication de la société civile, mais aussi une reprise par des acteurs politiques. Ils le vendent comme un moyen de répondre à la crise de la démocratie représentative. Donc il y a une forme de consensus aujourd'hui pour valoriser l'ouverture, le refus du secret, etc., même si parfois c'est de la cosmétique et que parfois l'un des meilleurs moyens de rendre quelque chose invisible, c'est de le noyer au milieu d'une masse infinie de documents que vous avez sortis dont on ne peut absolument plus détecter l'information pertinente. Donc depuis des années, on peut parler du coup, dans la traduction juridique, d'une inflation des textes législatifs ou réglementaires qui font mention de la transparence, de la volonté de lutter contre les secrets, etc. J'ai mis dans mon petit texte en note toute une série de textes comme ça, mais le mot transparence apparaît désormais de façon massive. Alors on peut se dire, c'est le triomphe de la transparence. Mais non, parce qu'en même temps, des lois sont venues reconnaître officiellement un droit au secret. C'est bien ce qui nous intéresse ici, avec la reconnaissance du droit au secret des affaires, dont la directive européenne de juin 2016 et sa transposition dans la loi de 2018 fixent les contours, le droit au secret des sources, qui est donc dans la loi du 4 janvier 2010, dont la protection juridique était une vieille revendication des associations de journalistes. Et je cite la loi, « Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public ». A priori, il n'y a rien de plus clair. Là, on leur reconnaît la chose. Mais en même temps, toujours dans ces tensions et ces contradictions, la possibilité pour les journalistes français d'exercer librement leurs prérogatives est aussi entravée par toute une série de textes édités depuis une dizaine d'années qui, sans être directement centrés sur les journalistes, les touchent indirectement. Alors, par exemple, l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l'administration, l'ordonnance du 17 mars 2016 sur le même sujet, la loi de juillet 2015 relative aux renseignements, toutes les lois sur la lutte contre le terrorisme, etc. Il y a un monceau de textes qui impactent directement ou indirectement le droit pour les journalistes d'exercer librement leur mission. Et les récentes convocations qui ont été évoquées en introduction de cette université d'été, devant des enquêteurs de journalistes d'investigation pour les interroger sur leurs enquêtes, pour faire pression de facto sur les rédactions, prouve que rien n'est acquis en la matière, en matière de protection des sources. Et la contradiction apparaît dans la confrontation même entre ces deux reconnaissances du droit au secret qui sont l'objet de la journée d'études. Attendu que les deux principes ont une logique forte, ils ont des arguments entendables. C'est entendable de se dire qu'on doit protéger une entreprise de l'espionnage économique et lui garantir un succès commercial en protégeant ce qu'elle a su créer. On peut comprendre. De la même manière, c'est quand même parfaitement entendable de permettre aux journalistes d'exercer leur rôle démocratique d'information du public sur des sujets qui sont d'intérêt public, en protégeant les sources pour leur permettre d'obtenir ces informations. Et donc l'arbitrage entre ces deux principes est au sens fort du terme, à mon sens, un sujet politique et qu'il est loin d'être un pur arbitrage, j'allais dire, de technique juridique. Et il me semble que c'est bien l'objet de l'organisation même de ça, de réfléchir à cette dimension plus politique, au sens noble du terme, si j'ose dire. C'est terrible d'être obligé d'ajouter ça aujourd'hui, mais... Donc, c'est d'ailleurs ce que la directive européenne et le législateur français admettent eux-mêmes, puisqu'ils ne font pas semblant de ne pas s'apercevoir qu'il y aurait de possibles contradictions. Puisque dans la directive européenne, il est écrit « À l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue, point numéro un, pour exercer le droit à la libre expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse et à la liberté d'information telle qu'elle est proclamée dans la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ». C'est ce qu'a rappelé également le Conseil constitutionnel, que je ne vais donc pas citer, puisqu'il a déjà été cité dans sa décision récente. Et donc, dernier point, quelle ligne de conduite pour trancher, quel principe doivent pouvoir, je pense, animer la réflexion, j'allais dire, de chacun et la réflexion collective. D'abord, premier point, être toujours lucide sur le fait que le principe de transparence n'est pas toujours paré de toutes les vertus. Et qu'il serait donc un principe supérieur qui surclasse tous les autres dans une sorte de hiérarchie morale, comme on dirait qu'il y a une hiérarchie des normes, il y aurait une hiérarchie morale, la transparence est le principe absolu. Même chose pour le droit au secret, qui n'est pas forcément condamnable en soi, dont on peut comprendre la légitimité, y compris d'ailleurs pour l'exercice du métier de journaliste, je l'ai déjà dit. Autre point, je crois qu'il faut être profondément convaincu quand on se pose la question de l'application de ces principes juridiques que la définition de ce qui est légitime à être secret est historiquement située et qu'elle est le résultat d'un rapport de force. Et je vais justement y venir dans la conclusion de tout ça. Se souvenir également que le Conseil d'État, dans son avis du 15 mars 2018 sur la loi sur la protection, sur le secret des affaires, pointe et répète à plusieurs reprises que la notion reste floue, qu'elle ne fait pas l'objet d'une définition suffisamment claire selon lui. Il parle de définition large et insuffisamment précise du secret des affaires. Et surtout, il souligne aussi que ça repose la question de la cohérence avec d'autres notions ou d'autres usages dans d'autres textes législatifs. Je le cite à nouveau, « Il conviendra en priorité d'harmoniser la définition du secret des affaires et de clarifier son articulation avec des notions voisines telles que le secret industriel et commercial. » Donc rien n'est totalement clair aussi dans la loi en tant que telle. Autre principe, à mon avis, qui doit guider la réflexion, que chaque acteur soit conscient de sa responsabilité, car, comme toujours en droit, l'existence de principes concurrents, qui ne sont pas forcément conciliables, fait reposer sur les décisions de jurisprudence les arbitrages entre ces principes. Et là, je crois qu'on est dans un moment crucial, d'où d'ailleurs, je pense, la pertinence d'organiser ça maintenant, et d'où mon acceptation très volontiers d'y participer. Je pense que le moment est crucial et que chaque acteur, chaque partie prenante doit être épris d'un grand sens des responsabilités dans la mise en œuvre des premières décisions sur ces enjeux. Et je pense par exemple que, justement, ça a été évoqué, les avis liés au secret des affaires de la CADA, en décembre 2018, en mars 2019 ou en février 2019, pour certains posent de gros problèmes. Parce que donc ça a donné lieu à des recours qui seront évoqués par Jérôme Carsenti, je ne vais pas trop m'apesantir, avec ce collectif de rédaction, etc. Parce que dans un de ces avis, ça consiste à refuser de donner simplement accès à une liste d'implants médicaux qui ont reçu une certification européenne. C'est-à-dire que là, on a quand même énormément de mal à comprendre où est le secret des affaires tel qu'on peut l'entendre comme un élément légitime du type j'ai mis au point quelque chose voilà, je comprends que la formule du Coca-Cola soit un secret des affaires et qu'ils ont réussi à précieusement garder depuis un siècle pour le meilleur ou pour le pire, après il y a des amateurs ou pas ça, donc on voit ici que si la loi protège a priori les journalistes de poursuites pour détenir et révéler des données redevables au secret des affaires, hein, la loi sur le secret des affaires les protège quand même, normalement c'est écrit dessus, bon on va voir comment c'est appliqué. En revanche, on voit bien qu'elle laisse des instances comme la CADA s'en prévaloir pour ne pas donner accès à des informations qui sont pourtant d'intérêt général. Donc on a prévu le cas où on les a et qu'est-ce qu'on en fait ? On n'est pas poursuivi. Mais en revanche, si on commence à utiliser cette loi pour empêcher les journalistes d'avoir accès à l'information, on voit bien que la tension est massive. Dernier point, toujours dans les principes, ne pas être dupe, à mon avis, du jeu des acteurs. Il ne faut pas être dupe du jeu des acteurs qui peuvent invoquer et valoriser un principe de droit au secret comme un cache-sexe pour masquer des pratiques et des turpitudes coupables. Le droit au secret des affaires ne doit pas devenir le droit au secret de pratiques inavouables, évidemment. Le secret des sources ne peut pas d'ailleurs pas non plus devenir le moyen commode de s'exonérer de pratiques déontologiques, ce qui a pu hélas arriver hein, lorsque des journalistes ont bidonné des reportages en inventant des fausses sources, auteurs de témoignages fantaisistes. Et on a le cas récent à Der Spiegel avec Klaas Relotius, hein, journaliste qui inventait de façon totalement fantaisiste des sources et des témoignages, mettait des verbatims de gens qui n'avaient jamais existé et se prévalait après, y compris à l'intérieur de sa rédaction, ce qu'il n'aurait jamais dû tolérer d'ailleurs, que je ne pouvais pas révéler mes sources, etc. Bien. Pour conclure, qu'il me soit permis de vous faire part ici de mon sentiment personnel rapidement. La demande de législation sur le secret des affaires me semble être un angle d'attaque très astucieux trouvé par les lobbies pro-business en réponse à une lame de fond qui est celle de la défiance des populations vis-à-vis des grandes entreprises, voire des secteurs entiers d'activité, contre lesquels donc, l'action conjuguée de lanceurs d'alerte et de rédaction ont mis au jour les pratiques douteuses, tant sur la manière de faire de l'argent, hein, au détriment de l'intérêt général ou des consommateurs, que dans la façon de masquer leurs responsabilités en créant des écrans de fumée, en ayant recours à des marchands de doute. Et je voudrais terminer là-dessus, justement, à partir, notamment, parmi d'autres, deux ouvrages récemment sortis de la journaliste du Monde, Stéphane Aurel, qui s'appelle « Lobitomie », qui est un excellent ouvrage, et encore plus récent, d'un journaliste américain, Nathaniel Rich, qui vient d'être traduit en français, « Perdre la terre ».« Perdre la terre raconte, c'est un excellent ouvrage, raconte comment des rapports scientifiques ont, dès les années 70, alerté sur les dangers du réchauffement climatique, et comment, à partir de l'administration américaine Reagan, alors que les entreprises de l'énergie se disaient « Ah ouais, il y a peut-être des risques », donc ils étaient prêts à financer des choses, tout d'un coup, le lobby s'est complètement renversé et on a financé le négationnisme du réchauffement climatique. Et dans Lobitomie, c'est comment créer justement artificiellement un certain nombre de choses. On le sait, hein, les secteurs industriels ou les entreprises ont appris à prendre en charge avec l'aide de cabinets spécialisés qui vendent leurs compétences comme ça, et parfois avec un cynisme confondant, puisque dans Lobitomie, elle cite des extraits de sites internet de cabinets de lobby qui sont spécialisés dans l'art d'entretenir des controverses scientifiques abusives, n'est-ce pas ? Pour contrer les révélations journalistiques sur leurs produits et leurs conséquences néfastes pour la santé, pour l'environnement, etc. Et qui produisent donc des fausses controverses scientifiques en finançant des contre-enquêtes, des contre-expertises qui ont été révélées après hein, par les Tobacco Papers, les Glyphosate Papers, etc. Et qui n'ont d'autre but que d'essayer de brouiller les perceptions en noyant d'un écran de fumée et de mensonges des données objectives, des données scientifiques. Et tout ça pour paralyser la prise de décision politique sur le mode « vous ne pouvez pas agir puisque tout ça est encore incertain » et bien sûr pour se dédouaner de toute responsabilité en la matière. Et donc, face au professionnalisme de ces marchands de doute, face à l'importance des sommes engagées au profit de cette manufacture du doute, on parle de milliards de dollars, hein, face au volume vertigineux de cynisme pour conduire ces opérations d'enfumage, y compris en osant dire, vous voyez, nous n'avons rien à cacher, la preuve, nous finançons des études que nous rendons publiques, etc. Il me semble que la balance penche trop souvent du côté du secret des affairistes, non pas le secret des affaires, mais le secret des affairistes contre l'intérêt public. Et donc, attention à ce que le secret des affaires ne soit pas l'ultime ruse des marchands de doute en la matière. Et attention aussi, c'est ma phrase de conclusion, à ce que les avocats et les magistrats qui subissent ou subiraient toutes les techniques d'influence possibles de la part de ces marchands de doute ne penchent pas trop systématiquement du côté des marchands de doute, parce que, en plus, une fois le poteau rose dévoilé, les scandales sanitaires et autres survenus, si on a en plus l'impression tenace qu'en plus du scandale caché, il y a eu des protections indues au nom du secret des affaires, alors ça alimentera un climat de défiance générale qui est déjà très généralisé dans une bonne partie de l'opinion et qui finira par prendre en plus des journalistes, des politiques, etc., voire de certains experts, les professionnels du droit comme victimes expiatoires, victimes d'une vindicte systématique et haineuse. Attention donc au risque, j'allais dire, du scandale, du secret contaminé ou quelque chose comme ça.
Merci beaucoup, Arnaud Mercier. Cette intervention claire et synthétique situe bien les enjeux. Maintenant, nous allons passer à un cas particulier avec donc Antoine Deltour qui va nous passer de la reconnaissance du statut des lanceurs d'alerte.
Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, en une phrase, je vais resituer l'affaire LuxLeaks pour ceux qui l'auraient oublié, parce que ça date déjà d'il y a 5 ans. Donc, c'était un scandale d'optimisation fiscale par le Luxembourg, d'accords fiscaux émis par l'administration fiscale et qui permet à de très nombreuses multinationales d'échapper en très grande partie à l'impôt de manière présumée légale. Dans le cadre de la directive secret des affaires, il y a beaucoup d'organisations qui sont mobilisées évidemment contre, pour défendre le secret des sources notamment, en disant qu'un certain nombre de scandales n'auraient pas pu émerger, avec le secret des affaires. Donc par exemple l'affaire le scandale du Mediator ou l'affaire LuxLeaks n'auraient pas pu exister si le secret des affaires était existait. Alors là, je souhaite faire une précision, c'est que justement l'exemple de l'affaire LuxLeaks, c'est que le secret des affaires n'a pas empêché l'émergence du scandale, puisque le secret des affaires existait déjà en droit luxembourgeois avant la directive. Par contre, cet exemple de l'affaire LuxLeaks montre à quel point l'existence de cet outil juridique, le secret des affaires, peut être utilisé à l'encontre des journalistes et des lanceurs d'alerte. Donc, comme je le disais, ce droit protégeant les secrets d'affaires existait déjà dans le droit pénal luxembourgeois, et c'est l'un des 5 chefs d'inculpation dont j'ai fait l'objet suite à la transmission de documents que j'ai obtenus en tant qu'auditeur dans un cabinet d'audit de Luxembourg à un journaliste. Et donc j'ai été inculpé pour violation de secret des affaires, et également pour violation de secret professionnel, etc. Et l'ensemble de ces délits étaient passibles jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, plus d'1 million d'euros d'amende. Et en tout cas, le secret des affaires n'était probablement pas nécessaire pour engager des poursuites à mon encontre, puisque voilà, j'avais 5 chefs d'inculpation, mais en tout cas, ça a été un des outils mobilisés à l'encontre des lanceurs d'alerte, parce que je ne suis pas seul, il y avait aussi Raphaël Allais, et également du journaliste qui a été inculpé pour complicité de violation de secret d'affaires. Donc tout ça pour dire que le secret des affaires n'empêche pas la divulgation de scandales, mais par contre est clairement un outil qui peut être mobilisé pour dissuader l'émergence de ces scandales. Alors, qu'est-ce qui a permis aux lanceurs d'alerte et aux journalistes de s'en sortir malgré l'existence de ce secret d'affaires dans le droit pénal luxembourgeois, donc avant la transposition de la directive européenne, c'est qu'il existe tout simplement, et y compris en France, avant même le droit récent de la loi Sapin 2 qui protégeait les lanceurs d'alerte ou la future transposition de la directive lanceurs d'alerte, il existe déjà un cadre légal protecteur des lanceurs d'alerte assez général et transnational, issu du Conseil de l'Europe, de la Convention européenne des droits de l'homme, et qui est mis en application par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est là-dessus qu'a reposé ma défense et celle de Raphaël Allais également. Puisque donc pour rappeler brièvement, hein, c'est le principal bouclier face à ce secret des affaires pour les lanceurs d'alerte, c'est donc cette jurisprudence de la CEDH qui définit précisément ce qu'est un lanceur d'alerte. C'est défini 5 critères plus un sixième qui s'applique aux États qui s'aventureraient à condamner un lanceur d'alerte. Donc en les listant rapidement, donc pour être protégé en tant que lanceur d'alerte, il faut révéler une information authentique. Une information d'intérêt public, deuxième critère. Il faut respecter une proportionnalité entre l'intérêt public de cette information et le dommage causé à l'entité mise en cause. Donc on voit bien la mise en balance, hein, entre le secret et la transparence, hein, qui est directement opérée par les juges. Et également, le quatrième critère, c'est l'absence d'alternative. Donc est-ce que la divulgation, donc mettre ces informations sur la place publique, était vraiment le seul moyen d'atteindre les buts du lanceur d'alerte? Et enfin, la bonne foi, qui est à comprendre comme l'absence d'intention de nuire, ou en tout cas l'absence d'intéressement du lanceur d'alerte. Et donc c'est l'application de ce droit transnational, en fait, hein, qui est mis en application uniquement par la CEDH, a été appliqué de manière assez exceptionnelle directement par un tribunal luxembourgeois, ce qui m'a permis d'être quasiment acquitté, il a fallu un parcours assez long jusqu'en cassation au Luxembourg. Ce parcours judiciaire, donc, qui a duré une première garde à vue, voilà, une mise en examen au printemps de 2014, jusqu'à un acquittement, un dernier jugement il y a un peu plus d'un an, au printemps 2018. Voilà, ça a pris plusieurs années, et c'est un combat, je veux dire, qui est long, éprouvant. Et coûteux. Hein. Donc, il y a eu un premier procès, première instance, un appel, une cassation, un deuxième appel. Il y a une asymétrie de moyens considérable entre le lanceur d'alerte ou le journaliste, qui est souvent une personne isolée et qui a des moyens totalement dérisoires par rapport aux intérêts économiques mis en cause. Et donc, cet état de fait montre que la directive secret des affaires, qui prévoit une exception pour les lanceurs d'alerte, hein, ça a été rappelé tout à l'heure, pour révéler des activités illégales, un acte répréhensible, je me trompe, voilà, une faute, je ne suis pas forcément très précis dans ma formulation, hein, je ne suis pas juriste, et en tout cas, voilà, cette exception, qui certes existe, présente la faiblesse de devoir, pour la faire appliquer, passer par ce parcours judiciaire qui est long, éprouvant et coûteux. Alors moi, j'ai eu la chance d'être très bien entouré par un comité de soutien formidable, dont certaines personnes à cette table faisaient partie, et je les en remercie, mais ce n'est pas le cas de tous les lanceurs d'alerte, et en soi, de simples poursuites judiciaires permises par le secret des affaires constituent une peine, avant même le prononcement d'un jugement. J'avais l'intention de faire d'enchaîner sur un point pour repréciser la hiérarchie entre secret et transparence, qui est vraiment à la croisée des chemins entre les impératifs de notre système économique et de notre système politique. Mais en fait, c'est tout ce qui a très très bien exposé Arnaud Mercier, donc je le remercie, et je pense que ça ne sert à rien de multiplier les redondances. Mais en tout cas, juste je vais repréciser que l'exercice citoyen, enfin démocratique, du lanceur d'alerte est absolument nécessaire à notre système politique, parce que on a besoin de transparence pour exercer le pouvoir du peuple à tous les niveaux, hein, aussi bien pour choisir nos représentants, ensuite dans le travail de ces représentants pour décider des lois et des règlements à mettre en œuvre, évidemment, et ensuite pour en contrôler la bonne application. Comment exercer un contre-pouvoir au système économique si on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise? Donc il y a besoin d'un minimum d'informations, et c'est pour ça que le secret des affaires ne peut pas être absolument général, et en tout cas pas défini de manière aussi large qu'il l'est actuellement. Il est toujours assez croustillant de rappeler que cette exigence de transparence est aussi nécessaire dans le cadre de la théorie économique libérale, voilà, qui prévoit l'information de toutes les parties. Et en tout cas, voilà, il faut absolument rappeler que s'il y a effectivement deux pôles entre lesquels trouver un équilibre, il faut rappeler que la situation actuelle est plutôt un déséquilibre assez net. Alors c'est une position personnelle, hein, mais on est quand même face à des multinationales qui sont plus puissantes que certains États, qui sont capables d'avoir une influence gigantesque sur tout simplement la conception du droit. Moi, je l'ai très bien vu au Luxembourg, et on voit les dérives administratives auxquelles ça a pu mener. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il vaut mieux essayer de renforcer et de protéger les quelques contre-pouvoirs qui existent, que sont les journalistes et les lanceurs d'alerte, plutôt que de renforcer des surpuissances qui sont actuellement en train de détruire l'homme et l'environnement. Quoi. Voilà. un point de vue personnel. Et en tout cas, je souhaite terminer en soulignant les avancées qu'il y a quand même eu dans ce débat, et en tout cas dans la perception qu'a le législateur du lanceur d'alerte entre donc les débats sur cette directive secret des affaires qui sont assez récents, hein, mais au cours desquels on a beaucoup entendu de suspicions à l'égard des lanceurs d'alerte qui menacent de révéler tout ce qui permet la bonne marche des entreprises et en tout cas qui menacent très fortement la réputation de nos puissances, de nos champions nationaux, qui menacent directement l'emploi en révélant des pratiques qui sont peut-être légitimes mais mal comprises par les lanceurs d'alerte. On a entendu beaucoup de suspicions. Le lanceur d'alerte est encore souvent perçu comme un délateur, comme quelqu'un qui agit. On présume souvent qu'il y a des motivations de vengeance ou d'intérêt personnel, que sais-je. Et ce débat-là a beaucoup évolué immédiatement après, hein, avec la directive lanceur d'alerte, donc, qui vient d'être adoptée, hein, au cours de la dernière plénière du précédent Parlement européen, et qui maintenant va être transposée dans tous les États membres. Et là, on a vu que la plupart des demandes de la société civile au cours des débats sur la directive lanceur d'alerte ont été entendus, en tout cas en très grande partie, et notamment, s'il y a un point à retenir, c'est qu'on, je l'évoquais dans la jurisprudence de la CEDH, il y a un des critères, c'est l'absence d'alternative. Donc en fait, c'est le choix du canal pour le lanceur d'alerte. Est-ce qu'il s'adresse à sa hiérarchie, aux autorités, ou directement au public, donc via les ONG, un journaliste ou lui-même sur Internet. Et donc là, c'était une forte demande des ONG de ne pas faire la même erreur que la France dans la loi Sapin 2, d'instaurer une hiérarchie très stricte en disant que le lanceur d'alerte doit d'abord en référer en interne, donc à son supérieur, quel qu'en soit le coût, et ensuite éventuellement aux autorités si le supérieur ne réagit pas, et en dernier ressort auprès du public. Et là, ce que dit la directive, c'est qu'elle met sur un pied d'égalité les deux premiers paliers. Donc le lanceur d'alerte peut choisir lui-même de s'adresser directement aux autorités ou auprès de son supérieur. Donc c'est en soi quand même une grande victoire, et on voit le chemin parcouru en peu de temps depuis la directive secret des affaires. Et ce travail n'est pas abouti, parce que voilà, maintenant en France, il faut transposer cette directive. Et je me permets de faire un peu de publicité pour un meeting organisé par Eurocadre, donc qui était quand même au cœur de la mobilisation à la fois sur le secret des affaires et sur la directive lanceur d'alerte, qui aura lieu le 7 novembre à la Bourse du Travail. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Antoine, pour avoir rappelé cette notion essentielle de contre-pouvoir en démocratie. Donc maintenant, les deux premières interventions ont eu lieu. On a effectivement le timing bien respecté, une demi-heure de débat avec la salle. Vous avez un micro ici, puisque je vous rappelle que les débats sont enregistrés. Donc, la parole à la salle. Oui, venez, présentez-vous et intervenez.
Bonjour, merci déjà pour la qualité des deux premières interventions. Il est certain qu'ensuite, ça sera de même ordre. Je peux l'enlever. Alors, Michel Varmet, avocat au barreau de Paris et ancien conseiller prud'homme. J'aurais une question à poser un petit peu en marge de ce qui a été débattu jusqu'à maintenant. Quelles sont éventuellement les comparaisons qu'on pourrait faire ou les différences que l'on pourrait trouver par rapport au droit social privé concernant les salariés, membres d'institutions représentatives du personnel, par rapport à ce problème du secret des affaires, du secret des sources. Je m'explique. Je crois que c'est dans le cadre des lois Auroux, en tout cas au début des années 80, où il y a eu des textes qui ont prévu effectivement que dans les conseils d'administration des groupes, il devait y avoir des salariés administrateurs, mais qui s'engageaient, bien entendu, à ne pas révéler un certain nombre d'informations qui étaient échangées au sein de ces conseils d'administration, informations qui touchaient souvent à un problème d'évolution dans l'entreprise en matière d'emploi, en matière d'externalisation, en matière éventuellement de transfert d'un site de production. Alors je pose la question donc, sur le plan du droit social, est-ce que l'on peut comparer les obligations de l'époque par rapport à ce qui s'est passé sur le plan pratique au niveau de la jurisprudence au regard de ce que nous proposent les différents textes maintenant, pour autant qu'on puisse comparer et différencier. Voilà ma question. Est-ce que je suis suffisamment clair ?
Oui, le problème, c'est que apparemment le micro ne fonctionne pas.
Je pense c'est un micro direction, il faut le...
Parce qu'on vous a entendu quand même, mais comme c'est enregistré, je crains que la question n'ait pas été enregistrée. Oui, pareil, oui. Pas besoin de chauffage, il fait chaud dans la salle. La question est très claire. Qui veut répondre ? Voilà.
Moi, je peux répondre que la loi sur le secret des affaires menace également tous les délégués élus ou désignés dans les entreprises, pour le savoir de près, je veux dire. La loi secret des affaires menace non seulement les journalistes, mais aussi les lanceurs d'alerte, mais aussi les ONG, les syndicats, les partis politiques, les chercheurs, les historiens, etc. Je veux dire, cette loi est une loi catastrophique pour la citoyenneté.
Je peux juste aussi apporter une précision, quand même, pour relativiser ce qui vient d'être dit. Les exceptions à la protection du secret des affaires, on va les évoquer, mais sur la question spécifique que vous posez, il est prévu à l'article L151-9 deux exceptions dans le cadre de l'exercice des institutions représentatives du personnel. Donc, exception lorsque l'obtention du secret est intervenu dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et la consultation des salariés ou leurs représentants. Deuxièmement, la divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice. L'information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui ont eu connaissance. Donc voilà, je pense que ça répond peut-être à votre question. Donc, en gros, la possibilité d'échapper à la règle du secret est possible pour les institutions représentatives des salariés, pour les représentants des salariés, à la condition que ça reste une communication interne aux salariés.
Oui, tu peux aller au micro. Non, parce que le point, c'est que les débats sont enregistrés, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a plus de micro ? Alors. Oui, vas-y.
Ah, ça, c'est bien.
Voilà. Oui. Mireille Damiano, Nice. Juste pour préciser que le problème n'est pas tant la divulgation de ce qui aurait été obtenu dans le cadre du travail des délégués du personnel ou des représentants aujourd'hui au CSE, mais c'est le fait d'obtenir ces éléments qui sont demandés et refusés par les employeurs et qui donnent lieu donc à un certain nombre de recours pour obtenir les informations sur la base du rejet.
Bah écoutez, s'il y a d'autres interventions, vous viendrez à la tribune, là, auprès du micro qui fonctionne, puisqu'apparemment, le micro était censé fonctionner, ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est les aléas du direct. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ces deux premières prestations ? encore? Ou bien est-ce que c'est suffisamment clair pour qu'à ce moment-là, on puisse avoir un petit temps de pause avant de reprendre nos débats? Est-ce qu'il y a encore une question? Non? Bien. Ben écoutez, ça nous laisse quand même à peu près... Ah,
si.
Ah, allez-y.
Il faut venir au micro, peut-être.
Non, c'est un problème d'enregistrement, si vous voulez, des débats, pour qu'on puisse ensuite savoir justement quelles sont les questions qui ont été posées, quelles ont été les réponses qui ont été apportées. On a bien compris votre sens, mais si vous pouvez juste le répéter rapidement au micro, merci.
Je voulais savoir par quels moyens on peut contraster les marchands de doute sur Internet et dans le système.
Je pense que c'est un défi immense. C'est pour ça que j'intervenais là-dessus. On est dans quelque chose qui est la solution trouvée par le système de communication au sens large pour essayer de faire en sorte de tenir deux choses intenables qui est, regardez, nous n'avons rien à cacher, la preuve, nous communiquons avec, c'est justement en faisant ça qu'on dissimule. Et c'est une position beaucoup plus intelligente, si je puis dire, même si elle est beaucoup plus cynique, elle est beaucoup plus intelligente que celle qui consiste à dire « je refuse de commenter », parce que vous accréditez l'idée que vous avez bien quelque chose à cacher, la preuve, vous ne parlez pas. Et là, on est dans quelque chose, si vous voulez, des tas de révélations par des lanceurs d'alerte ou le plus souvent par des journalistes, sur des tas de secteurs industriels où il y avait des scandales sanitaires qui n'ont été dévoilés que des années après et où les uns et les autres disaient « on n'a pu retrouver qu'à posteriori les industriels responsables savaient pertinemment que les premières études qui montraient la dangerosité étaient malheureusement vraies, mais que leur seul objectif, c'était de noyer d'un halo d'incertitude, y compris en entretenant le doute de façon totalement artificielle. Je vais vous raconter une anecdote, un exemple que je raconte toujours en cours, parce qu'en plus, j'étais maître de conf à Nice à l'époque. Il y avait le professeur Ménez, professeur de biologie marine, qui se fait lanceur d'alerte. Il était prof à l'Université de Nice, en disant « Attention, j'ai découvert des Caulerpa taxifolia, donc, que les médias ont appelé algues tueuses, malheureusement, mais bon, bref. Mais en tout cas, une algue tropicale qui n'a rien à faire en Méditerranée, dont on ne pensait pas qu'elle pouvait être en Méditerranée, parce que c'est une algue tropicale, l'eau est trop froide pendant l'hiver, etc. » Et donc, il se pose la question et il s'aperçoit, donc alors, il voit ça, alors, il fait de la plongée sous-marine, au large de Monaco, il voit un banc de Caulerpa. Bon, un an après, il revient et là, il s'aperçoit qu'il y a déjà plusieurs hectares colonisés. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à comprendre parce qu'il pensait que c'était une aberration, que ça allait se finir. Et puis, au contraire, voilà. Et il tire le signal d'alarme en disant, attention, c'est déjà dans des champs de Poséidon, ça risque de changer l'écosystème, enfin, etc. Il est très, très alarmiste. Puis, les marins pêcheurs en ramassent dans leur filet, ils en ont marre. Enfin, bref, donc on commence à saisir le politique. Et là, on commence à se poser la question de mais d'où ça vient? Et bizarrement, c'était juste, mais alors vraiment juste en dessous du musée océanographique de Monaco. Et donc, l'interprétation qu'il fait, c'est de deux choses l'une. Ou bien, quand ils vidangent leurs aquariums, ils jettent ça dans la mer et la Caulerpa s'est installée. Ou alors, plus apprentis sorciers, pour alimenter leurs aquariums avec des animaux mexicains, etc., ben, ils leur donnent à manger ce qu'ils ont l'habitude de manger dans le golfe du Mexique. Et donc, ils ont fait un petit champ de colerpe. Là-dessus, en tout cas, le truc très étonnant. Le musée océanographique de Monaco va prendre les services d'un professeur de biologie marine à Montpellier pour invalider les thèses du professeur Ménez, en disant ben non, voilà. Et il va dire voilà, et il va aller devant l'Académie des sciences à Paris faire une intervention qu'il va donc publier par le biais d'amis, qu'il faut dire, publier avec la crédibilité scientifique apparente de quelque chose qui n'en a aucune. D'ailleurs, l'Académie des sciences a retiré le papier plus de quelques temps après. Il a dit c'est le lesseptianisme. Le lessepsianisme, vous savez, c'est Ferdinand de Lesseps, celui qui a creusé le canal de Suez, et il dit, ben voilà, avec le creusement du canal de Suez, on a vu certaines espèces méditerranéennes partir dans la mer Rouge et certaines espèces de mer Rouge partir en Méditerranée. Bon, jusque-là, on se dit pourquoi pas. Sauf que c'est une algue, n'est-ce pas? Et il va expliquer le plus sérieusement du monde que la petite colère qui était dans la mer Rouge a pris son élan et hop, et juste en dessous, le musée océanographique de Monaco, avec aucune trace de colère entre l'Égypte et Monaco. Mais vous voyez, je le dis de façon un peu grotesque, bien sûr, mais personne ne peut croire ça. Eh bien, par des appuis académiques, de copains, etc., il a pu dire cette ânerie-là devant l'Académie des sciences, qu'il l'a publiée, qui a été obligé de le retirer après un peu penaud en disant « bah oui, on n'avait pas assez contrôlé, etc. » C'est ça le marchand de doute. Et c'est extrêmement compliqué de lutter contre ça, parce que le seul moyen, finalement d'une certaine façon, le seul moment où on arrive à lutter contre, c'est quand on arrive à retrouver ce qui a été le cas, par exemple, Le Monde a publié ce qu'on a appelé les glyphosate papers, publie précisément les échanges de mails d'un cynisme absolument confondant qui montre comment des gens... Et par exemple, dans le cas des glyphosate papers, vous avez des échanges de mails avec la société Monsanto qui cherche à trouver un contact avec un scientifique de renom qui lui propose de l'argent, pas pour lui-même, hein, pour financer ses recherches. Hein. Ce n'est pas de la concussion, non, surtout pas. Et qui lui dit, ben voilà, nos équipes ont préparé un papier, est-ce que vous pourriez le relire et vous le signeriez? Et donc, il va apporter son crédit scientifique à ça. Pour moi, c'est des traîtres à la cause. Enfin, je me considère comme enseignant-chercheur, je me considère comme scientifique. C'est une trahison, la trahison des clercs, mais vraiment, quoi. Et de ce point de vue, c'est très difficile de lutter contre. Et je vous dis, là où, quand même, on y arrive, c'est quand on arrive à trouver, justement, les échanges cyniques. Mais je pense qu'il y a une alerte à trouver, du point de vue journalistique et citoyen, pas seulement sur ce que font les gens, ça, parce que les entreprises, etc., ça, c'est toujours difficile de le savoir, mais de s'alerter sur les cabinets de relations publiques auxquels ils font appel. Parce que certains sont justement spécialisés là-dessus. Et je vous dis, dans Lobotomie, et vous cite des extraits de certains cabinets qui présentent explicitement, nous sommes là pour créer de la controverse scientifique, enfin, etc. Vous trouvez des experts qui pourront dire le contraire de ce que ceux qui ont produit des informations négatives ont fait. C'est-à-dire, ils vous disent d'emblée, quel que soit votre problème, ne vous inquiétez pas, on va vous trouver quelqu'un qui va vous dire que les cigarettes, c'est pas cancérigène. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est un point de vigilance. C'est les cabinets auxquels on fait appel, parce que certains font leur fonds de commerce d'être des marchands de doute.
Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, le micro devrait fonctionner. Pour l'intérêt des débats, oui. Présentez-vous rapidement.
Oui, bonjour, Audrey Khalifa, Barreau de Paris. Moi, je me pose une question, à la lueur de vos interventions, un peu pratico-pratique en tant qu'avocat. C'est une question qui est vraiment une question de légistique. Dans la formulation des textes, que ce soit sur les lanceurs d'alerte ou sur le secret des affaires, aujourd'hui, on a des exceptions qui sont des exceptions avec des contours où c'est nécessairement... Enfin, il y a une appréciation extrêmement subjective et in concreto de ce qui doit justifier les exceptions. C'est donc la jurisprudence et c'est donc la casuistique, puisque pour nous, en amont, quand on doit conseiller quelqu'un, eh ben, on va lui dire... On va voir aujourd'hui, demain, après-demain, quand les arrêts vont sortir et quand la Cour de cassation ou d'autres juridictions vont se prononcer, on va voir si finalement c'était autorisé ou pas. Donc en fait, comment, enfin aujourd'hui on ne peut pas, a priori, et je laisse ça à votre appréciation, mais il me semble qu'on ne peut pas faire, soit on dit aux gens, bah, tentez le coup, Et peut-être que ça passera. Vous serez des lanceurs d'alerte, peut-être que ça passera, mais face à un énorme poids en face, il y a une énorme puissance, comment faire pour anticiper et ne pas être juste dans un principe de précaution en disant, écoutez, vous prenez trop de risques, vous êtes des salariés et même protégés, vous allez vous faire virer, vous êtes des journalistes, mais même compte tenu du secret des sources, de votre protection de lanceurs d'alerte, vous allez avoir des problèmes comme vous avez pu en avoir, et finalement, vous ne serez réhabilité que dans 5 ans, 10 ans, quand ce sera jugé et quand on aura un vrai contour législatif, enfin jurisprudentiel.
Oui, ce que l'on peut dire, c'est le problème de ce texte, c'est l'insécurité juridique qui l'a créé finalement. C'est ça aussi la difficulté, c'est que le principe en matière de droit des affaires, par exemple, c'est la sécurité juridique. Or, ce texte crée de l'insécurité, d'ailleurs, pour tout le monde, finalement. Et c'est ça qui pose problème. Enfin, moi, je développerai ça par rapport à la procédure civile. Dans ce texte, il y a aussi le problème de l'aspect contradictoire des choses, du débat contradictoire. Moi, je le vois déjà dans le cas de l'article 145 en matière de référé. Eh bien, on peut invoquer maintenant le secret des affaires, et ça, ce qui pose un problème, effectivement, de production de la preuve et d'inversion de la preuve en matière de procédure civile. Donc c'est vrai que je pense que non seulement il y a une insécurité juridique du fait du secret des affaires lui-même, il faudra approfondir, mais ça, la jurisprudence, ça va prendre du temps, et donc on est dans une difficulté. Mais en plus, c'est une insécurité juridique qui touche à la procédure civile elle-même, enfin pour ce que je vois moi. Voilà ce que je peux répondre. La loi prévoit des procédures spécifiques de restriction du secret pour pouvoir investiguer, mais enfin bon, il y a quand même un problème de compatibilité et de différents. Il y a différents systèmes juridiques finalement de procédures qui maintenant vont s'affronter, c'est qui est quand même un problème.
Ouais, et il y a un gros souci d'insécurité juridique, c'est une certitude, hein, parce que si on regarde, là je reprenais le texte, si on regarde le L151-8 qui prévoit les exceptions, les cas dans lesquels on peut légitimement révéler une information couverte par le secret, le troisièmement, il est à la fois très riche de potentialité et très insécurisant, parce qu'on a le droit de déroger et de divulguer des informations couvertes par le secret lorsque c'est fait pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national. Alors, fixer les frontières de ça, bon courage. Juste une question qui va se poser. Est-ce que l'évasion fiscale, et je dis évasion, pas fraude, c'est-à-dire des dispositifs légaux, mais un petit peu borderline en termes d'intérêt public, est-ce que les révéler... est-ce que la lutte contre l'évasion fiscale est un objectif légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national? En vrai, j'en sais rien. Et ceux qui seront en situation de révéler des informations susceptibles de relever de cette exception-là, ils vont devoir se lancer en n'ayant aucune idée précise de ce qu'il y aura dans la piscine. Et avec en plus l'autre problème que j'aborderai quand ce sera mon tour de parler, mais l'autre problème de cette loi qui est le principe du fait, un peu du fait accompli et du pot de terre contre le pot de fer. Quand vous êtes une petite structure, un salarié individuel, un petit média et que vous attaquez à une multinationale qui va pouvoir se servir de cette loi-là et engager une procédure qui... va vous coûter extrêmement cher à vous, mais qui sera largement soutenable pour la société en question, quelque part, peu importe que, comme Antoine Deltour, on vous donne raison des années et des années et des années après la procédure, vous l'avez subi quand même. Et ça, c'est cette notion de fait accompli, c'est une faille importante du dispositif quelque part, et ça je reviendrai, je développerai ça tout à l'heure, mais d'une certaine manière, la procédure peut être la nuisance en elle-même. Et on peut avoir des acteurs qui vont se lancer dans des procédures bâillons, dans lesquelles ils savent qu'à la fin ils auront tort, mais le but c'est pas d'avoir raison à la fin, c'est de vous briser les genoux financièrement, de vous occuper, et puis aussi de gagner du temps. Et ça, c'est le vrai problème, selon moi, de cette...
Pendant que vous êtes occupé, eux continuent. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'ils ont 4 ans ou 5 ans ou 8 ans de liberté pour continuer tant que ce n'est pas jugé, en plus.
rebondir sur ce que vous veniez de dire et redire d'une autre façon ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que par rapport à l'évasion fiscale, vous abordiez. Moi, je suis donc politiste, je suis pas juriste et je suis encore moins professionnel du droit, donc Dieu m'en a préservé.
Ça fait pas mal.
Ouais, mais c'est une sacrée responsabilité. Ce que je veux dire, c'est que c'est là que je reviens sur ce que je disais, c'est éminemment politique, parce que évidemment, je dirais, mais c'est pas très technique juridique ce que je vais dire, que la question de l'appréciation pour le juge de est-ce que l'évasion fiscale dépendra très clairement, à mon sens, d'un climat qui je pourrais appeler un climat politique et un climat d'opinion. C'est-à-dire que à partir du et donc d'un rapport de force là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une forme de consensus, au moins du côté du gouvernement, voire d'un consensus dans l'essentiel des forces politiques pour dire que l'évasion fiscale, c'est vraiment pas bien et qu'il faut lutter contre, vous serez plus armés pour avoir le sentiment d'être légitime à, voire vous pourriez, on pourrait le dire, ressentiriez une sorte de climat, de pression du climat à le condamner. Et voilà. Mais je pense qu'effectivement, l'enjeu de ce sujet, c'est qu'il est éminemment politique et que c'est précisément pas un simple texte juridique, mais qu'il y a quelque chose qui se joue dans un arbitrage qui restera indéfectiblement politique, à mon sens.
Oui, on a déjà finalement un petit peu anticipé sur la table ronde. Donc encore une question, et ensuite, ça sera la pause.
Oui, Patrick Terroir, Innovation Légale. Oui, je voulais juste rappeler que le secret des affaires, ce n'est pas quand même un monstre totalement négatif, etc., et qu'il y a une diversité de réalités derrière. En particulier dans une société de l'innovation, où les PME notamment ont un accès aux brevets extrêmement complexe, et c'est en plus pas toujours approprié, le secret des affaires avait besoin d'être réglementé. D'ailleurs, il est maintenant réglementé au plan international, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine. Il y a exactement les mêmes textes en Chine, alors leur application est un autre problème. Mais en tout cas, le secret des affaires, c'est un outil de l'innovation pour les petits acteurs. Ils avaient besoin d'être protégés parce qu'ils sont souvent piratés, copiés, etc. Donc la réalité, il faut... Parce que là, il y a des discours qui pourrait donner l'impression qu'il faut mettre tous les aspects du secret d'affaires dans le même sac. Je pense qu'il y a des différenciations à faire.
C'est justement l'objet de la table ronde. Alors, si vous voulez bien maintenant, vous êtes donc un bon quart d'heure de pause café et on reprend à 11h10. Merci.